l'Orient grec. Et la première partie, ça sera au VIe siècle. VIe siècle. Vous voyez que c'est un petit peu la... L'Orient grec va se prolonger un peu. Enfin, les pères, alors que en Occident, on passe déjà au Haut Moyen Âge, en fait. C'est-à-dire, en fait, au Haut Moyen Âge, c'est-à-dire finalement à rien, hein, parce que pendant un siècle ou deux, il n'y aura vraiment pas grand-chose. Alors, au VIe siècle, l'Orient chrétien est honoré de l'activité du pseudo-Denis. On l'appelle le pseudo-Denis aujourd'hui. Ah ben je vais vous expliquer. Alors, parmi les rares auditeurs de l'Aréopage, du discours à l'Aréopage tenu par Saint Paul, il y avait eu un certain Denis, hein, c'est dans Actes 17, 34, Dionysios, nom tout à fait commun dans le monde grec, et c'est sous son nom que nous est parvenu tout un corpus théologique, visiblement composé par un auteur unique et marqué par le néoplatonisme de Proclus, 412-485, vous voyez, dans la ligne de Plotin. Plotin, Jean Blic, etc., tous ces auteurs du néoplatonisme. Alors, vous comprenez bien que on s'est quand même dit que... Ça arrive sous le nom de Denis l'Aréopagite, et la première occurrence de l'œuvre... de cette œuvre n'est repéré que dans le premier quart du VIe siècle, avec en gros une doctrine qui s'inspire d'un auteur du Vème siècle. C'est Sévère d'Antioche, hein, donc un évêque qui le cite. Alors, les recherches des patrologues n'ont pas réussi à, pas permis de connaître l'identité de cet auteur. Ça sera un peu comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas qui c'est. L'auteur du corpus dionysien, on ne sait pas non plus qui c'est. On pense que c'est un moine syrien qui a vécu au tournant des 5e et 6e siècles. On y décèle aussi une influence de Saint Grégoire de Nice. Donc Saint Grégoire de Nice, c'est quand même... vous voyez, le 5e siècle. Et ce corpus, alors vous voyez pourquoi on l'appelle pseudo-Denis. Hein. Alors on l'appelait Denis au départ, Denis l'Aréopagite, puis pour éviter de confondre avec le disciple de Saint Paul, qui quand même est du 1er siècle, on a dit pseudo-Denis. Hein, c'est un de ces innombrables. Alors soit... l'auteur inconnu, pour faire passer son œuvre, l'a mise sous le nom de Denis l'Aréopagite. Alors là, il était sûr de franchir les murs, de passer en trombe, hein, sûr. Ou alors, il s'appelait aussi Denis, ce qui n'est pas du tout impossible. Après tout, notre premier évêque s'appelait bien Denis aussi. Puis des Denis, il y en a des quantités. Hein, Denis de Syracuse, etc. Donc, finalement... on ne sait pas comment il s'appelle, mais il s'appelait peut-être Denis. Et comme on l'a mis en lien avec la Réopagite, eh bien, sa doctrine immédiatement a acquis une renommée qu'elle n'aurait peut-être pas eue s'il n'y avait pas eu cette pseudonymie. Alors, il y a quatre traités qui constituent ce corpus, en somme. Il y a un sur les noms divins.
Le nom global du corpus.
On dit corpus dionysien. Enfin, il n'y a pas vraiment de terme. Comme on dit corpus paulinien pour dire les lettres de Saint Paul et tout ça. Alors, il y a un traité sur les noms divins, le De Divinis Nominibus. qui sera notamment commenté par saint Thomas d'Aquin, qu'il n'aurait peut-être pas commenté si ça n'avait pas été sous la pseudonymie de Denis. Le De Mystica Theologia, la théologie mystique, il y a un ouvrage qui s'appelle De Celesti Hierarchia, de la hiérarchie céleste, et De Ecclesiasticis Hierarchiis, des hiérarchies terrestres, ecclésiastiques. Et à cela s'ajoute une dizaine de lettres, qui ne sont pas des lettres, enfin, qui sont des lettres théologiques, c'est-à-dire des mini-traités théologiques. Donc on revient à notre ami pseudo-Denis, hein, donc avec ces quatre ouvrages, donc les noms divins, la théologie mystique, les hiérarchies célestes et les hiérarchies terrestres, enfin ecclésiastiques, plus des lettres théologiques qui sont en gros des mini-traités théologiques. Alors, ce qui est caractéristique du pseudo-Denis, comme on dit, c'est l'apophatisme, c'est-à-dire le fait d'insister sur la transcendance divine. En fait, Dieu est au-delà de tout, voilà. À la limite, les néoplatoniciens diraient même qu'il est au-delà de l'être. Donc il est, vous voyez, c'est pas sans rapport avec le gnosticisme et avec le néoplatonisme. Donc, l'absolue transcendance de Dieu qui contraint à s'engager sur le terrain de ce qu'on appelle la théologie négative. Très clair dans le De Divinis Nominibus. Oui, et dans la théologie mystique. C'est-à-dire, on sait plus de Dieu ce qu'il n'est pas que ce qu'il est.
C'est ça, la théologie négative.
Oui, c'est ça. Donc, voilà. On arrive, on sait dire ce qu'il n'est pas, mais et ça dégage un espace mystérieux qui est ce qu'il est. Mais on ne l'aborde pas d'abord par ce qu'il est, on l'aborde par ce qu'il n'est pas. Donc Dieu n'est pas matériel, Dieu n'est pas limité, Dieu n'est pas ceci, n'est pas cela. Et une fois qu'on a dit ça, on a dit ce qu'il est, sauf qu'on n'arrive pas à le dire. On n'arrive pas à trouver un mot pour dire. Et effectivement, quand dans l'ensemble de théologie, saint Thomas parle de Dieu, enfin première question, il commence par dire de Dieu, on peut dire surtout ce qu'il n'est pas plutôt que ce qu'il est. Et donc lui aussi pratique la théologie négative, notamment parce qu'il a été influencé aussi par le pseudo-Denis. Et donc la théologie positive dirait, on commencerait par dire, bon, bah, Dieu est, bon, voilà, ça c'est bien, on peut dire il est grand, il est beau, il est ineffable, etc., etc. Bon, très bien, mais avec la théologie négative, on va plus loin, parce que ça permet de cerner un reste qui est indicible. Et c'est ce caractère indicible qui est la marque, en quelque sorte, de la transcendance de Dieu. Comme, souvenez ce que disait saint Augustin, aussi marqué par le platonisme, qui disait « si comprehendis, non es Deus ». Si tu comprends, si tu arrives à mettre en équation, si tu arrives à ramener le divin à de l'humain, à du connu, eh bien, c'est que tu t'es trompé de cible. En fait, ce n'est pas Dieu. Et donc là, l'apophatisme permet justement d'éviter de tomber dans ce piège de réduire Dieu à nos catégories. Alors, et justement, il analyse les noms divins. Donc, aucun des noms divins, le bien, la lumière, la beauté, l'amour, l'être, la sagesse, la vérité, la force, la justice, le salut, la paix, rien ne peut dire ne peut rien dire de Dieu de manière adéquate. Dieu est bien tout ça, mais il est à sa manière, qui n'est pas la nôtre. Hein, vous voyez, par exemple, si on dit que Dieu est lumière, on risque de tomber dans le mazdéisme, hein, tout bêtement. Hein. Après tout, le dieu des Perses, il est aussi lumière et pure lumière.
Alors pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu a créé l'homme à son image ?
Oui, alors on dit qu'il a créé à son image, mais justement, il y a une distance entre l'archétype et l'image. Donc c'est à son image, mais toujours un peu dans la perspective. Alors c'est curieux parce que c'est quand même biblique, hein, donc c'est. Mais ça serait pas désavoué par un platonicien que l'image est toujours moindre que son modèle. Il faut avoir en tête les images que pouvaient avoir les anciens. Nous, quand on regarde notre image, on se voit. Les anciens, eux, leur miroir, c'était du métal poli. Mmh. Et bon, alors parfois ça marchait bien, mais d'une manière générale, l'image était toujours un peu, disons, floue, pâle. Enfin, disons, l'image n'était pas à la hauteur du modèle. Et quand on dit que, évidemment, on est créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on porte quelque chose de lui, de son effigie, mais d'une manière propre à celui qui la reçoit, c'est-à-dire la créature, donc d'une manière moindre. Hein. Ce que dit le pseudo-Denis, c'est que tout ce que l'on. Les noms qu'on a repérés de Dieu décrivent plus son activité vis-à-vis de nous, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient l'économie. Il distingue entre la théologie et l'économie. La théologie, c'est Dieu en lui-même, et l'économie, c'est Dieu tel qu'il agit pour nous. Hein, qu'on parle, par exemple, d'économie du salut, d'économie de la rédemption. Donc, l'action de Dieu pour nous, bah, ça, évidemment, on peut un peu en dire quelque chose, puisque ça nous touche. Donc, on sait qu'il est rédempteur, on sait qu'il est sauveur, on sait qu'il illumine nos âmes qui sont un peu sombres. Bon, un certain nombre de noms divins, effectivement, décrivent un peu son agir vis-à-vis de nous. Mais ce qu'il est en lui-même, ça reste en dehors de notre réflexion. Et il faudra, à ce moment-là, partir de l'idée d'analogie pour se dire que le Dieu qui agit dans l'économie et qui se révèle dans l'économie, eh bien, il a un rapport ontologique profond avec ce qu'il est en lui-même et qu'il ne nous montre pas. Donc, on peut inférer de ce qu'il fait ce qu'il est. Mais, vous voyez, sans aller plus loin, on peut se dire qu'il n'y a pas deux dieux. Vous voyez, ça c'était la position finalement assez compréhensible d'un certain nombre de néoplatoniciens, de se dire, voilà, il y a un dieu qui agit, celui-là il est repérable, etc., etc. Puis au-delà, au-dessus, il y a un dieu ineffable que seul, à la limite, le dieu qui agit peut atteindre, mais nous pas. Tandis que là, on va se dire que ce Dieu qui agit, eh bien, il doit avoir naturellement un lien avec le Dieu qui est au-delà de l'agir. Vous voyez ? C'est le même Dieu, si Dieu est un. Donc, si Dieu est un, la théologia, donc c'est pour ça qu'il parle, il y a un traité qui s'appelle Theologia Mystica, donc la théologie, eh bien, peut être abordée à partir de l'économie. Alors ça, ça sera un des éléments de cette théologie mystique. Alors évidemment, sur la question du mal, il dit que le mal n'est pas, puisque Dieu seul est. Et donc le mal va être perçu comme ce qui va nuire à l'être, en fait. Une sorte de ce qui ronge l'être, en quelque sorte, un néantement de l'être. Et évidemment, c'est une mystique, finalement, de la nuit, plus que de l'illumination. Et vous voyez, le rapport avec Grégoire de Nice, hein, c'est que dans Grégoire de Nice, il y a des étapes. Il y a notamment l'étape de l'illumination sur le Sinaï, puis ensuite l'entrée dans la ténèbre. Donc Dieu nous illumine, c'est c'est l'économie, voilà, il se révèle à travers son agir rédempteur, et ensuite il nous introduit dans une inconnaissance, une inconnaissance, une sorte de ténèbres. Donc dans la ténèbre on voit rien. Mais cette ténèbre, elle est au-delà de la lumière, vous voyez. C'est comme s'il nous éblouissait, finalement. Quand on est ébloui, on ne voit plus. Mais on est soumis à une lumière plus forte que la lumière qu'on est capable de percevoir. Donc c'est toute cette idée-là qui va être développée, notamment aussi dans la mystique occidentale, hein. Et notamment dans la mystique du Carmel, mais aussi la mystique des cisterciennes, etc. Et puis, notamment, on a des grands auteurs anglais du Moyen-Âge, comme par exemple Julien de Norwich, ou alors l'auteur inconnu du Nuage d'inconnaissance, aussi, qui sont des auteurs qui ont parlé de ça. Donc, l'idée du pseudonymie, c'est qu'il faut abandonner toute impression sensible. Voilà, Dieu est au-delà du sensible, et même toute interprétation, on pourrait dire, conceptuelle. Dieu est même au-delà de notre raison, de nos concepts, de notre intelligence. Donc, il est vraiment au-delà de tout. Alors, du coup, et comme toujours dans les auteurs un peu platoniciens ou néoplatoniciens, la place du Christ comme accès à Dieu n'est pas tellement soulignée. Parce que Dieu est tellement au-delà de tout que finalement, le Christ, il a beau être Dieu, mais sa place dans la connaissance de Dieu n'est pas très soulignée. Par exemple, tout en gardant cette idée que Dieu est au-delà de tout, les mystiques cisterciens et carmélitains vont se raccrocher à la personne incarnée du Christ comme voie d'accès réellement. Et donc ils vont éviter justement cette espèce de néoplatonisme désincarne en quelque sorte qui d'une certaine manière oublie que Dieu s'est incarné et qui d'une certaine manière oublie aussi que Dieu est accessible par quelque chose de nous, malgré tout.
Et est-ce que l'économie de Dieu, c'est pas le Christ,
tout simplement? Si. Oui, oui. Parce que le Christ est à la fois le médiateur et. Alors, il est l'instrument de la création, il est le médiateur. En fait, il est le médiateur et de la création, et de la rédemption, et de la révélation. Donc. Les Arariens en faisaient en quelque sorte une sorte d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Les orthodoxes confessent qu'il est bien Dieu tout en étant homme. Mais vous voyez, les chrétiens néoplatoniciens ont un petit peu de mal à voir comment l'incarnation bouleverse un peu la donne de la connaissance du divin. Parce que, évidemment, si ce n'était pas incarné, on aurait pu connaître Dieu à partir de ses œuvres, ce que dit saint Paul, hein, de dire la créature mène au créateur. Mais une fois qu'on a dit qu'il est créateur, on n'aurait pas pu aller tellement plus loin.
À partir du moment où on supprime le sensible, on supprime l'incarnation, me semble-t-il.
Ah oui, tout à fait.
Alors, est-ce que la mystique doit-elle supprimer le sensible?
Justement, les mystiques disent, les vrais mystiques disent que non. Et justement, le problème du pseudo-Denis, c'est que s'est emparé jusque tout le Moyen-Âge du nom d'Aréopagite, eh bien, on en faisait un disciple authentique de saint Paul. Donc, on essayait de concilier la christologie authentique des conciles avec cette approche on peut dire néoplatonicienne. Une chance qu'il n'ait pas vécu au moment de au moment de l'arianisme ou de ces trucs-là, parce que là, on, c'est pas sûr qu'on aurait eu une doctrine équilibrée à Chalcédoine ou Éphèse. Hein. Donc, un des aspects de cette. Voilà. Alors, après les deux autres traités, dans la perspective néoplatonicienne, eh bien, le monde participe de Dieu. Ça répond un peu à votre question, hein, image et ressemblance. Hein, et donc, il y a quelque chose de Dieu qui se trouve dans la créature. Alors, deux aspects. L'aspect cosmologique, hein, ce sont les hiérarchies célestes, avec les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges, les anges. Enfin, vous avez tout ça dans saint Paul, et c'est repris dans les préfaces de la messe. Et puis, les hiérarchies ecclésiastiques, évêques, prêtres et diacres, c'est le premier, premier groupe ternaire, puis moines, laïcs et pénitents, qui sont le deuxième. Alors tout ça, c'est une échelle, en quelque sorte. L'illumination divine descend, elle passe des séraphins aux chérubins, à chaque fois, elle perd un peu de sa puissance, jusqu'aux anges ordinaires, comme l'illumination divine resplendit dans l'évêque, elle perd de sa puissance dans le prêtre, puis dans le diacre, puis dans le moine, puis dans le laïc, puis dans le pénitent. Et l'union à Dieu permet de monter, en quelque sorte, d'entrer, alors sans perdre son degré, mais on pense, enfin, c'est la position de Pseudo-Denis, que plus un individu est élevé ontologiquement dans la hiérarchie, angélique ou terrestre, eh bien, il est plus uni à Dieu. C'est presque une sainteté ontologique, vous voyez. Alors donc, cette œuvre aura un retentissement considérable au Moyen-Âge, notamment chez saint Bonaventure, chez saint Thomas d'Aquin, saint Jean de la Croix, et aussi en Orient, avec notamment saint Maxime le Confesseur, qu'on va voir aussi, qui est aussi un père de l'Église. Alors, pour le pseudo-Denis, la création est comme une icône divine. C'est-à-dire, plus on est uni à Dieu, plus la création apparaît comme une image de Dieu. Hein, c'est-à-dire, la dimension cachée de Dieu se rend visible à mesure qu'on est plus uni à lui, et qu'à ce moment-là, on voit en toute chose Dieu présent. Dieu présent dans tout le créé, en quelque sorte. Hein. Et ça suppose donc un regard affiné par la foi. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on fasse le tour du mystère de Dieu. Mais on voit en quoi Dieu a, si j'ose dire, infusé dans toutes ses créatures, en quoi il est visible, en quelque sorte. Et toute la spiritualité, parce que vous vous souvenez que, à la différence du platonisme, qui est plutôt une philosophie, le néoplatonisme est plutôt une religion. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de connaître, mais aussi de saisir. Et donc, la grande idée du pseudo-Denis, notamment dans sa théologie mystique, c'est de s'acheminer vers l'union à Dieu, mais de nuit, hein, comme dirait saint Jean de la Croix, c'est-à-dire on ne voit pas celui qu'on étreint. Donc c'est la grande idée. Donc voilà, aux yeux de la foi, tout resplendit de la présence de Dieu et rien, strictement rien, n'est un matériau inerte. Ça, souvent Ratzinger l'a repris cette idée que pour le monde des Lumières, si j'ose dire, pour le monde des Lumières, la rationalité s'arrête à ce qui se voit. Alors, donc tout ce qui ne se voit pas, c'est réputé irrationnel. Donc on réduit, en fait, finalement, le raisonnable au matériel. Et à ce moment-là, les choses apparaissent comme, finalement, des matériaux privés de leur source, privés de leur fin ultime. Donc, elles sont finalement, comme dirait Heidegger, elles sont disponibles, elles sont arraisonnables. Hein. Arraisonnables au sens où on peut arraisonner un objet, enfin, mettre la main dessus, en somme. Voilà. Et puis, et à ce moment-là, tous les êtres, y compris les êtres humains, deviennent à ce moment-là du matériel, des matériaux. Donc c'est ça la réduction qu'opèrent les Lumières, c'est le fait qu'on ne saisit plus dans l'objet, voire dans le sujet humain, on ne saisit plus sa profondeur divine. On ne voit plus en lui une icône, une image du divin. On ne le voit plus rattaché à sa source et orienté vers sa fin. On ne voit plus qu'un truc inerte, quoi, sans cause, enfin, sans origine et sans fin. Et du coup, ben, disponible à quoi ? À ce que finalement le bas Moyen-Âge va développer, la volonté qui prime sur l'intelligence. Et donc, un matériau disponible pour faire ce qu'on en veut. Alors, par exemple, pour faire des armées de millions d'hommes qui vont se disputer un territoire ou des... toutes les choses qu'on a aujourd'hui sur la manipulation de l'humain, du génome et tout ça. Et même la nature, enfin, les choses de la nature. Enfin, on voit, d'une certaine manière, les primitifs étaient plus sages que nous. On raconte que dans des peuples primitifs, les chasseurs saluaient la bête qu'ils allaient tuer et ensuite la remerciaient de s'être laissée tuer pour devenir nourriture pour eux. Donc ils avaient conscience que c'était pas un matériau, une masse de protéines ou quelque chose comme ça, mais qu'il y avait une sorte de génie, enfin de réalité vivante, image qui avait sa place dans l'harmonie du tout, et puis voilà, et qui oui, il y a un peu de ça, oui, certainement, il y a une sorte de oui, voilà, et qui ramène ce monde de l'Antiquité, enfin même dans de l'Antiquité. Et Ratzinger insiste beaucoup sur cette perte de la profondeur du regard sur les choses et sur les et très rapidement des choses on passe aux gens, hein, parce que quand on cesse de voir la profondeur d'une chose, on cesse aussi de voir la profondeur d'une personne, hein, et puis donc ça devient du matériel humain. Bon. Alors, évidemment, tous ces auteurs-là sont des moines, et on sent bien que chez eux, c'est l'union à Dieu qui prime sur la connaissance de Dieu. Donc, finalement, que Dieu soit inconnaissable, on s'en fiche du moment qu'on puisse l'étreindre. C'est un peu la grande idée des mystiques. Alors, après, passons à un autre auteur moins spéculatif, qui est Romanos le Mélode. Alors, c'est un aussi, voilà, quelqu'un qui est né plus ou moins, un Syrien, qui est né plus ou moins en 490, donc qui a vécu au VIe siècle, et qui rappelle un peu Saint Éphrem le Syrien. Alors, il est né à Émèse, une ville, hein. Comment ?
C'est Homs.
Oui. Il s'installe à Beyrouth où il va perfectionner son instruction classique. On est encore dans la perspective, enfin on est encore dans le monde romain là pour le coup, même si c'est d'Orient. Il devient diacre vers 515 et il s'établit ensuite à Constantinople. Alors on nous dit qu'il eut une apparition de la Vierge Marie qui lui concéda un charisme poétique. Oui, il a avalé un rouleau en rêve. Un rouleau, parce qu'on écrivait avec des rouleaux à l'époque. Et finalement, il sera prédicateur et chantre jusqu'à la fin de ses jours, en 555. Voilà. Alors, c'est surtout un hymnographe, du coup, parce qu'il chante, mais il chante ce qu'il compose aussi. Et sa prédication consistait en une déclamation à l'ambon. Les ambons sont restés plus longtemps dans le monde oriental, de ce qu'on appelait des kontakia, c'est-à-dire des poèmes de 18 à 24 strophes avec un nombre de syllabes égal par vers. Hein, donc c'est des vers qui sont tous isomètres, hein, si on veut. Et puis, ces poèmes sont structurés en strophes, donc des poèmes assez longs. Et chaque strophe se termine par un refrain qu'on reprend. Et donc, parfois, ces kontakia peuvent prendre la forme de dialogue aussi. Regardez par exemple, comme la séquence de Pâques, là.
De la vigile.
Et Dic nobis Maria, quid vidisti in via, et puis elle répond sepulchrum, je sais plus quoi, et puis donc vous voyez, c'est sous forme de dialogue, c'est un poème sous forme de dialogue. Et ben là aussi on avait l'idée du dialogue, ça rend les choses moins austères, hein. Sudarium et Vestem, voilà, c'est ça. Voilà, c'est donc dans le. Alors, Romanos utilise un grec simple, compréhensible par le peuple, ce qui est la même langue que celle de ses prédications. Et alors, il utilisait aussi des représentations murales, ou bien des icônes, pour que pendant sa prédication, et donc ce chant du kontakion, et donc oui, c'était un peu ça, c'est le cinéma muet, quoi, avec il y a un accompagnement musical et parlé avec les images qui défilent pour que les gens puissent voir aussi ce qu'ils entendent, ou mettre un mot sur ce qu'ils voient, ou une image sur ce qu'ils entendent.
Et sur de la toile, enfin,
oui.
Des images défilées.
Oui, alors c'était pas sur de la toile, c'était des représentations murales sur toile qui étaient présentées, ou alors des icônes tout simplement qui étaient présentées, et à ce moment on chantait un kontakion qui était en rapport avec l'image qui était présentée, et puis voilà. Et ça permettait, et je crois que, vous savez, c'est une méthode qui a été utilisée aussi en Occident. Je pense par exemple, Nicolas de Flux, en Suisse, avait fait une sorte des dessins un peu, des sortes de peintures allégoriques, où finalement le catéchisme était représenté en images et qui commentait. Et avec des. Mais si c'est un bon système, hein, de... Oui, oui, oui. Ah oui, qui représente les. Oui, oui, oui. C'est un peu comme les Ölberg allemands, là aussi, là, les représentations de la passion à l'extérieur des églises, là, qui sont.
Qu'est-ce que ça veut dire,
Öl? Öl, c'est l'huile. C'est Gethsemane, en gros.
Ah, d'accord. C'est pas la technique de représentation.
Non, c'est souvent des représentations.
Olivier, oui.
Mais remarquez, les chemins de croix, c'est pareil. Les
sacromantiques.
Oui, les sacramenti, oui, qu'on a vu là cet été, c'est la même chose. On représente le mystère et on le voit et puis on passe à autre chose. Ah bah c'est pareil aussi. Hein, c'est, tout ça c'est la même idée. Hein. Les crèches vivantes qui ont été un peu popularisées par François d'Assise, oui. Donc, ça existait avant, les vitraux, enfin tout ça, c'est des et des fresques. Hein. Je vous en jure que toutes les églises étaient couvertes de fresques à l'époque. Alors, moi, ça m'arrive parfois quand je prêche de montrer un vitrail ou de choses comme ça. Oui, ça, c'est à peu près souvent de même. Oui, enfin pas toujours, mais ça arrive. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de. Mais quand je faisais le catéchisme aux enfants, c'était pareil. Je leur montrais les vitraux et puis ça faisait là.
Est-ce que le chant religieux n'est-il pas l'écho d'une voix céleste ? Enfin, de voix qui viennent de plus loin.
Oui, alors, voilà. Donc ça a toujours été un peu les spéculations grecques.
Orthodoxes.
Voilà. Donc de jouer la musique est en rapport avec la mathématique, l'astronomie. Et finalement, la musique des sphères célestes. Donc, il y a une idée que l'harmonie du chant est une image de l'harmonie du cosmos.
Hildegard de Bingen aussi.
Oui, Hildegard. Et puis.
Le chant orthodoxe aussi.
Oui, oui. Ben, je crois que tout le chant religieux, tout le chant jusqu'au chant un peu moderne, enfin moderne. Oui, disons, à la polyphonie, en gros, c'était cette idée de trouver les sons qui correspondent à la musique la musique divine, en fait, la musique de l'harmonie divine, la musique du cosmos. Je suis pythagoricien, notamment, la musique des sphères. Donc l'harmonie est importante, hein, et comme dit aussi Augustin et repris par Ratzinger, la musique a ceci qu'elle permet de faire face justement à ce qu'il y a d'apophatique dans la connaissance de Dieu. Voilà. Un discours, même poétique, est assez proche de son objet. Tandis que quand l'objet nous dépasse infiniment, la parole se sent trop courte, en quelque sorte. Et donc, comme explosée par le chant. Voyez, le chant va permettre de dilater la parole. Et d'ailleurs, on le voit bien. Veni. Ben, après, quand vous regardez des veni de l'avant, ça se développe sur je ne sais pas combien de sons, etc., en ayant des nuances d'impatience, d'imploration, de trucs de genre. Alors que si vous dites « viens », bah « viens », voilà, c'est dit, hein. Mais ça ne va pas loin. c'est purement rationnel, c'est un pur concept. Tandis que avec la musique, vous pouvez nuancer en quelque sorte de manière considérable une seule parole. Et notamment dans le chant grégorien. C'est pour ça qu'on insiste tellement sur le chant grégorien dans l'Église catholique. Ou alors parfois dans la polyphonie avec des reprises de phrases. Mais en général, ça fait un peu un méli-mélo que les auteurs ecclésiastiques n'appréciaient pas trop. Enfin, disons que les évêques n'aimaient pas trop. Ils préféraient plutôt que la parole soit vraiment distincte, entendue, pour être médité. En fait, c'est une lectio divina, le chant. Et en même temps, il exprime quelque chose de l'enthousiasme qui va au-delà de ce que la raison peut simplement produire. Saint Augustin parle de ça, et Ratzinger aussi, il le reprend. C'est vraiment l'idée que dans le chant, au Bernardin notamment. Oui, il en avait parlé. Mais dans tous ses traités de théologie, de liturgie, il reprend cette idée qu'avec le chant, eh bien, on est plus. Le chant a un langage plus adapté au divin, parce qu'il souligne davantage la limite du langage, donc de la raison, et en même temps il permet d'incarner aussi le concept, enfin d'incarner la pensée. Le mot, le langage devient, d'abord il est porté davantage par le corps, parce que quand on chante c'est plus compliqué que de dire, hein. Et puis et en même temps le chant s'enveloppe des instruments et de la musique instrumentale, et donc c'est pas simplement la langue humaine, les cordes vocales qui louent Dieu, mais c'est aussi sont aussi les éléments de la création qui s'associent à cette louange à travers le bois des flûtes, le cuivre des trompettes, je sais pas quoi, j'oserais pas dire les boyaux de chat des violons, mais enfin disons les différentes choses qui le oui, vent, le souffle.
Musique, ça n'enferme pas, c'est un art éphémère par définition. Oui. Alors que quand on regarde une peinture,
oui, elle est statique.
Elle est statique. La oui. musique, elle se déroule dans le temps, donc elle dit quelque chose de notre incapacité à être autre chose que dans le moment.
Oui, exactement. Ça, c'est très juste aussi. Et moi, j'en fais souvent l'expérience quand un bruit m'énerve. Quand il est passé, il est passé. On s'en souvient plus. Ouais, alors que un objet visible, il reste. Hein. Alors voilà, donc pour ce Romanos. Alors, disons que dans son enseignement, il insiste beaucoup sur l'unité, notamment à cause de cette idée d'harmonie en fait finalement musicale, notamment l'unité des deux testaments. Alors là, évidemment, comme toujours chez les pères, en jouant de l'allégorie, etc., etc. L'unité de la création et de la rédemption, etc. Il insiste beaucoup sur le Saint-Esprit aussi, qui était quand même un peu le parent pauvre de la Trinité. Sur le Christ, évidemment, mais en évitant les controverses savantes qui déchirent l'Orient. Parce que son but, c'est vraiment d'édifier, d'enseigner. C'est pas, disons, de couper le chemin en quatre. Hein. Et, en somme, il va illustrer dans ses cantakia, dans ses chants et ses prédications, en fait, la christologie des grands conciles de Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine. Alors, il y a aussi des poèmes un peu moraux, enfin il y a des chants qui sont plutôt à consonance morale, et notamment il insiste sur la charité, comme étant évidemment la vertu qui couronne le tout. Donc voilà un père, si l'on peut dire, syrien, s'exprimant en grec, dans le cadre de l'Empire romain d'Orient, et qui a été, on pourrait dire, un pasteur à travers l'utilisation de la poésie et de la musique. Alors, ensuite, grand B, au 7e siècle, bon, voilà deux personnages du 6e, passons à deux personnages du 7e siècle. Alors, le premier, c'est Saint Jean Climaque. Enfin, j'en aurais même trois. Saint Jean Climaque, 575 plus ou moins à 650. Il devient moine au Sinaï à l'âge de 16 ans. Puis, quelques années plus tard, il se retire comme ermite. Et il va rester 40 ans au désert, où du coup, il est recherché comme directeur spirituel. Et dès que vous vous éloignez, vous êtes recherché. Et il reviendra comme higoumène, comme supérieur du monastère du Mont Sinaï, mais dans ces dernières années, il repartira au désert pour y mourir, pour mourir comme ermite. Alors il est célèbre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Climaque, pour un de ses ouvrages. Climax, c'est l'échelle. Donc, en grec, oui. C'est pour son ouvrage L'échelle du paradis. L'échelle du paradis, qui lui donnera donc son nom, Climax. Alors, c'est un traité de vie spirituelle, donc aussi l'échelle des vertus, hein, écrit à la demande d'un abbé voisin. Donc, il va écrire un traité de vie spirituelle. Alors, il distingue trois phases. La première, c'est la rupture avec le monde pour revenir à l'état d'enfance évangélique, en renonçant, le renoncement matériel et l'obéissance. Donc voilà, ce qui caractérise l'enfant, c'est celui qui n'a pas, et c'est celui qui s'en remet à un autre pour sa vie. Donc, première étape. Deuxième étape, le combat spirituel contre les passions. Dans cette échelle, il y a des échelons. Et chaque échelon est une passion qui est décrite avec toutes ses subtilités et aussi avec la thérapie appropriée pour soit pour l'éteindre, ce qui serait très platonicien, mais pour lui, pour les redresser, pour les faire servir au dynamisme spirituel, ce qui est très chrétien. Les passions ne sont pas mauvaises, car redressées, elles deviennent le dynamisme qui nous conduit à Dieu. Alors que vous voyez, dans une perspective platonicienne, stoïcienne, bouddhiste, etc., il faut les éteindre. Et finalement, l'idéal du bouddhiste, c'est d'être un caillou, quoi. Un tas de pierres, quoi. Donc c'est... Voilà. Alors que l'idéal, les chrétiens, c'est nos passions sont désordonnées et nous conduisent parfois dans le fossé. Eh bien, il faut les réordonner pour aller plus vite sur la route, reprendre la route et pas rester comme ça inerte sur la route. Alors, et troisième étape, c'est la perfection chrétienne, c'est celle des sept derniers échelons de l'échelle, qui sont la simplicité, l'humilité et le discernement, qui vont conduire à ce qu'il appelle la tranquillité de l'âme. Donc quand vous êtes simple, humble et que vous avez le cœur transparent, eh bien vous arrivez à la tranquillité de l'âme, qu'on dit en grec ezukia. Et c'est ce qu'on appelle l'ezikasme. Hein. Donc la tranquillité de l'âme, c'est la base. Le camp de base, si vous voulez, pour arriver aux quatre derniers sommets, la prière corporelle et la prière du cœur. Et la prière du cœur, ça sera par la répétition de la prière de Jésus, donc cette espèce de mantra, en quelque sorte. Et le dernier degré est marqué par ce qu'il appelle la sobre ivresse de l'esprit. La sobria ebrietas, la foi, l'espérance et la charité. Donc une sorte de joie profonde qui tient au fait que les passions ont été redressées, que en fait finalement, nous souvent la vertu nous est pénible parce que elle est parce que justement on n'est pas redressé, réparé. Donc on est obligé d'aller contre notre naturel déformé, en somme. Et alors que quand on a réformé son naturel, eh bien, on va de sommet en sommet. Quoi.
Et comment il répare ?
Alors justement, c'est dans les échelons précédents, où il donne, il décrit les passions et puis donc la thérapie appropriée. Et, donc, qui suppose l'engagement de la volonté. Alors, au départ, c'est comme tout. Hein. Quand vous êtes déformé, il faut vous reformer. Et une fois qu'on est reformé, à ce moment-là, on peut progresser dans... c'est exactement la pédagogie des exercices de Saint-Ignace. Hein. Saint-Ignace a réussi à synthétiser pour l'Occident, finalement, tout le cheminement ascétique de l'Orient, enfin des pères du désert. Je me souviens que j'avais une prof de la faculté de Strasbourg qui nous avait fait des cours là-dessus à Rome, sur la manière dont la pensée de, enfin, disons, l'ignatianisme, comment on dit déjà, oui, la pensée ignatienne, enfin disons la spiritualité ignatienne, était en fait une ressaisie qu'il a découverte pratiquement par lui-même, hein, parce que le bon maître Ignace, il connaissait un peu sa théologie, mais il n'avait pas été fouillé dans tous les pères de l'Église. Mais il avait réussi à retrouver finalement les grands axes de la pensée de gens comme Saint Jean Climac ou tous ces gens-là. Et donc c'est ce qu'on appelle l'hésychasme. Et là, en utilisant ce terme, on voit bien qu'on bascule déjà de l'Antiquité au Moyen-Âge, oriental tout au moins. Hein, parce que l'hésychasme, ça va se développer beaucoup dans la spiritualité grecque, par le mont Athos. Et ensuite, ça passera en Russie, donc au Moyen-Âge. Oui, la prière du pèlerin russe. Ah, vous avez peut-être lu le petit livre, voilà. Et c'est voilà. Et alors, donc voilà pour Saint Chose, là, Saint Jean Climac. Alors, vous pouvez le trouver. Alors évidemment, tout ça, c'est publié dans les sources chrétiennes, en bilingue. Et puis, souvent, il y a d'autres collections de pères, où vous avez simplement la traduction française sans tout la paracritique, etc., et qui vous donne le texte reçu en français. Et c'est quand même c'est intéressant. Alors après, on va repasser à un théologien, un père de l'Église qui sera un théologien, Saint Maxime le Confesseur. Alors, quasiment contemporain de Saint Jean Climac, puisqu'il est né plus ou moins en 580 et qu'il va mourir en 662. Alors lui, c'est à la fois l'héritier des pères cappadociens, donc les grands christologues du 5e siècle, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, et en même temps du pseudo Denis, donc il a pratiqué. Alors il serait né à Constantinople et il aurait assumé des fonctions administratives avant d'embrasser la vie monastique, donc il a dû être un haut fonctionnaire en fait. Alors pour d'autres, il serait né en Palestine et aurait tout de suite été moine, enfin, rejoint tout de suite le monachisme, la vie monastique. En tout cas, il répond aux questions d'un évêque qui s'interrogeait sur les grands écrits dogmatiques de Saint Grégoire de Nazianze. Et donc il va donner des élucidations, des ambiguas. Il va répondre aussi à des questions d'un moine libyen. Et ce sont les 65 questions ad Talationem, donc le nom de ce moine. Donc, vous voyez, son œuvre sera plus une œuvre un peu réactive, comme saint Thomas a écrit beaucoup, il a fait des traités pour l'enseignement, et puis il a répondu aussi à des questions que lui posaient des papes, des princes ou des gens comme ça, et des évêques. Et donc là, notre Saint Maxime, en fait, c'est un moine finalement, et il va répondre à des questions qu'on lui pose surtout sur de la théologie. Alors, il va connaître aussi l'Occident chrétien, puisque il va résider même à Carthage pendant 15 ans dans une communauté de moines orientaux, est marqué par la grande figure de Saint Sophron de Jérusalem, qui était un patriarche qui est à peu près un peu son contemporain, enfin il le précède un peu puisqu'il est né en 550 et meurt en 638. Et alors justement, il est élu, ce Saint Sophron, en 634, l'année où le patriarche de Constantinople déclare qu'il n'y a qu'une seule volonté dans le Christ. Vous vous souvenez quand on avait parlé du monothélisme et du dithélisme. Donc c'est le fameux texte qu'on appelle l'ecthésis, qui est cette déclaration dans laquelle le patriarche de Constantinople, voilà, qui veut trouver un moyen terme, vous voyez, entre le nestorianisme où il y a deux natures et puis le monophysisme où il n'y en a qu'une seule. Il dit, bon, bah, d'accord, il y a deux natures, mais il n'y a qu'une seule volonté dans le Christ. Alors, l'empereur Héraclius en fait une loi d'empire en 638, parce que, justement, il voulait se réconcilier avec les monophysites d'Égypte. Donc, en fait, il voulait apaiser le différend religieux pour fortifier l'unité, retrouver l'unité politique de l'Empire. Au moment où d'abord les Perses, en 614, puis les Arabes, en 634, commencent à menacer sérieusement l'Empire. Donc on se dit, l'unité de l'Empire vaut bien une volonté, ou deux volontés, un sacrifice d'une volonté dans le Christ. Alors, Sophron de Jérusalem, lui, proteste, il dit que c'est pas bien, et Maxime s'engage auprès de lui, disant que si on confesse une nature humaine dans le Christ, fait partie de la nature humaine une raison et une volonté. Donc on ne peut pas mutiler en lui dans le Christ, enfin on ne peut pas mutiler sa nature humaine, parce que si on soustrait la volonté, ben c'est plus une nature humaine, c'est qu'une apparence de nature humaine. Alors il va participer au synode romain qui en 649 va condamner ce qu'on a appelé le monothélisme. Et c'est à ce moment-là que l'empereur Constant II, toujours dans cette volonté de trouver un dénominateur commun entre les monophysites et les nestoriens de l'Empire, fait arrêter le pape Martin Ier qui avait tenu ce synode et qui sera torturé, et aussi le Maxime qui est arrêté en 653. Il est déporté en Thrace, et la Thrace c'est quand même pas désagréable, hein. C'est plutôt un beau climat, il y a la mer, le ciel bleu, voilà, l'eau tiède, le soleil brille. Il est à nouveau donc convoqué au tribunal et il refuse de céder. Alors on l'ampute de la main droite et de la langue, donc de la main droite pour pas qu'il écrive et de la langue pour pas qu'il parle. Donc à l'époque, hein, aujourd'hui on dit la charia c'est barbare, mais enfin bon, les lois de l'Empire romain chrétien n'étaient quand même pas non plus très 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 douces non plus. Alors du coup on le redéporte cette fois-ci, on le déporte dans le Caucase. Hein, alors, là, c'est, non, c'est vraiment dans les régions limitrophes de l'Empire. Hein, donc, et évidemment, il va mourir de ces mutilations. Voilà. Et alors, quelques années plus tard, moins de 20 ans plus tard, le concile de Constantinople III va confirmer, je dirais, la ténacité de Sophron, de Martin et de Maxime. Donc, ils vont être réhabilités, mais ils seront morts. Oui, Constantinople III. Donc, c'est le concile qui répond à ce qu'on a appelé le monothélisme. Alors, son œuvre, à côté des ambiguas et des questions à Thalassios, là, nous sont parvenus un commentaire du Notre Père, un livre ascétique et une mystagogie, c'est-à-dire une théologie spirituelle monastique, ainsi que des recueils de sentences appelées des centuries. Par exemple, quatre centuries sur la charité, donc c'est une série de citations sur huit sentences sur la charité, ou deux centuries sur la théologie et l'économie. Donc vous voyez le rapport entre les deux. Qu'on a appelé aussi les centuries gnostiques, avec une influence assez forte d'Origène, et puis beaucoup d'autres opuscules, des réponses à des questions, et toute une correspondance des lettres, dont certaines sont quand même un peu la taille d'un traité, quoi. Alors, sa doctrine est centrée sur la divinisation de l'homme par la grâce de Dieu, par le Christ. Maxime le Confesseur va corriger un peu la théologie alexandrine par la théologie d'Antioche, qui, vous vous souvenez, est davantage, moins allégorique, plus littérale, et du coup qui fait plus droit au Christ, moins comme une sorte d'abstraction que comme une réalité. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que, à force de jouer avec les abstractions, les Grecs, enfin les Égyptiens, aient fini par tomber dans le monophysisme, hein, où finalement il y a Dieu et une apparence humaine, finalement, dans le Christ, alors que en étant plus attaché à la lettre des Écritures, et en particulier du Nouveau Testament, les Antiochiens insistaient davantage sur, en somme, l'humanité du Christ. Donc, voilà. Alors, il a aussi une vision, et c'est pour ça qu'il est très apprécié par Ratzinger, par Balthazar, par un certain nombre d'auteurs, parce que il a sa vision du progrès spirituel n'est jamais coupée de sa vision du cosmos. Où l'homme a sa place dans le cosmos et même sa mission. Donc le cosmos participe aussi de la chute et de la rédemption. Alors pour lui, le Verbe incarné est le principal organisateur de la création. Et de son devenir cosmique par le logos, hein, disons, alors le logos est incarné, le principe organisateur donc de la création et de son devenir cosmique. Comment? Par l'intermédiaire des logoi, donc avec un petit lambda, des esprits des créatures qui en font de la stabilité. Donc voilà comment le verbe médiateur de la création qui doit l'acheminer vers son terme, eh bien, il l'achemine par le biais des esprits créés, angéliques et humains. il dirige cette voilà. Alors c'est un peu compliqué, mais l'idée c'est que le Verbe va diriger ses esprits à travers des attitudes qui va leur infuser en eux et qui sont en fait finalement le fruit de l'action de la grâce. C'est une manière de parler de l'action de la grâce dans nos âmes. Et l'incarnation donc du Verbe va aboutir à la divinisation de la nature humaine. Donc autrement dit, toucher dans l'humanité du Christ par la divinité, c'est toute la nature humaine qui a la possibilité de se diviniser, d'être divinisée. Et vous voyez que, d'une certaine manière, le Christ est un peu le Christ cosmique dans cette perspective de Maxime le Confesseur. Et ça s'articule bien avec l'idée de saint Paul en disant que par la grâce, justement, nous devenons les membres les uns des autres, les membres du Christ. Nous formons un corps dont les liens sont plus forts que n'importe quel lien terrestre, en quelque sorte. Parce que, en fait, la nature humaine est sanctifiée, divinisée par le mouvement de l'incarnation. Et du coup, elle donne à chacun de ceux qui vit individuellement dans cette nature humaine, c'est-à-dire nous, eh bien, la possibilité d'être divinisé. Ce que les Grecs appellent la théiosis. Et d'ailleurs, quand ils parlent du baptême, ils parlent plutôt de l'illumination, de la divinisation, plutôt que de la rédemption. Parce que, en fait, si j'ose dire, ils vont plus loin. Nous, on regarde où était la plaie, et eux, ils voient où une fois soigné, on va aller. On n'est pas simplement soigné, on est divinisé par le baptême. Et on entre alors dans l'intimité divine qu'il perçoit également un peu comme Grégoire de Nice, sous une forme extrêmement dynamique. Qu'il appelle la péricorèse, qui est une sorte de cœur qui danse autour de cette réalité toujours en ébullition qu'est la divinité. Donc il y a une sorte de participation à ce mouvement continuel par lequel la Trinité s'engendre, Donc disons, Dieu n'est pas un bloc de marbre inerte. Hein. C'est une vie. Et il fait comprendre que tout à l'heure on parlait du chant. Ben là on rajoute la danse. Hein, voilà. On n'est pas simplement statique face au voir Dieu. Quand on dit saint Thomas, parfois on a l'impression de se dire, on reste comme ça à regarder. Mais dans Maxime le Confesseur, on bouge. Enfin, cette espèce de grand corps humain, il forme une sorte de grande danse autour du divin. Vous trouvez ça un peu parfois dans les peintures de Frangelico quand il représente le paradis. Où les élus se tiennent font une grande ronde autour de l'agneau mystique, ou van der Weyden, ou des gens comme ça. Alors, ensuite, dans le domaine de l'ontologie, il a aussi dit que tout ce qui existe tient évidemment son existence du logos divin et trouve en lui son sens. Le pôle divin est présent dans un certain nombre d'antinomies, par exemple absolu, le divin est du côté de l'absolu et en face il y a le contingent, il est du côté de l'un et nous plutôt du côté du multiple, il est du côté de l'être et nous plutôt du devenir, voyez, si bien que pour résumer, le père Drobner, qui est un patrologue, dit « De toute éternité, les logoi des créatures subsistent dans le logos divin, avec leurs différences et leurs diversités, un peu comme les idées chez Platon, hein. Mais par ailleurs, en tant qu'ils sont vouloir divin selon l'expression de Clément d'Alexandrie et d'Origène, c'est de sa liberté créatrice qu'ils peuvent recevoir leur existence, caractérisée nécessairement par le jeu du devenir qui marque la distanciation entre l'immutabilité divine et le changement constitutif des créatures. Donc les créatures ne cessent pas d'être des créatures tout en étant divinisées, mais elles vont participer à la vie même du créateur, en somme, mais voilà, participer à leur degré propre, qui est un degré évidemment moindre. Voilà, son anthropologie, c'est l'anthropologie théologique, c'est-à-dire l'homme est jamais pris en lui-même, il est toujours considéré sous l'angle de son histoire. Or, son histoire, elle est marquée par la chute, par la rédemption, et donc elle est placée toujours sous le signe du Christ, l'homme parfait, qui en est l'archétype à la création, qui en est ensuite le rédempteur dans la chute, puis celui qui va le guide, qui va le ramener vers la perfection, et enfin celui en qui tout homme s'accomplit, puisque pénétrant dans l'intimité divine, il sera placé comme membre du corps du Christ. Enfin, alors, la controverse monothéliste va l'obliger à affiner la psychologie humaine. Et là, il va se tourner vers Aristote, où il souligne que c'est l'hypostase qui assure l'unité avec le corps. Donc, la personne, le suppôt, comme disent les scolastiques. Et donc, ce qui permet de dire que d'échapper au nestorianisme tout en affirmant qu'il y a une intelligence et une volonté dans le Christ, c'est de dire qu'en fait, ce qui en est le suppôt, l'hypostase, c'est pas une personne finie, mais c'est la personne infinie du Verbe. Donc c'est la personne divine qui est ce qui sous-tend l'humanité complète, intègre, du Christ. Donc, vous voyez, on est plus dans... Alors, si on prenait une image, ça ne serait pas deux réalités l'une à côté de l'autre ou l'une sur l'autre, mais ça serait plus comme la main dans un gant, en quelque sorte. À condition qu'on considère que le gant est... il n'est pas évidé de son contenu. Donc c'est un gant, voilà. La main, c'est comme la personne du Verbe qui va agir ce gant. Et évidemment, la volonté divine, comme dans l'humanité du Christ, il n'y a aucune trace de péché, la volonté humaine est toujours articulée sur la volonté divine, mais elle consent toujours à la volonté divine. Évidemment, le Christ est tellement obéissant que on comprend les monothélistes qui disaient en fait, il n'a qu'une seule volonté et elle est divine. Mais voilà, ils n'ont pas vu à quel point cette volonté était transparente à Dieu et qu'elle existait quand même, mais toujours dans l'assentiment à ce que Dieu veut. Et c'est en ça aussi que le Christ est un modèle pour nous. Parce que nous, on est bien dans cette situation, on a une volonté qui doit assentir à ce que Dieu veut, à la volonté divine, à la volonté du Christ. Et c'est en ça que le Christ peut être notre modèle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui. Alors, pour la volonté, évidemment, il parle des vertus. Bon, mais ça, c'est tiré aussi d'Aristote. Mais voilà. Donc, en christologie, comme je vous disais, il insiste sur le fait que l'incarnation, c'est l'assomption par l'hypostase du Verbe, par la personne du Verbe, d'une humanité complète, âme rationnelle, c'est-à-dire intelligence plus volonté, dans un corps, et ces deux volontés s'articulant harmonieusement dans le Christ, puisque lui ne connaît pas le péché. Alors, si vous voulez bien, on va s'arrêter là, à la fin de Saint-Maxime. Donc, vous voyez, qui était l'empire chrétien a quand même produit des martyrs de la foi, comme Saint Martin Ier, qui est mort en exil, enfin un peu amoché quand même. Saint Maxime, même chose. Et encore, on cite que les grands. On ne cite pas tous ceux qui ont été, tabassés par la police impériale.